Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Facebook est-il en train d'avancer vers le précipice? Et plein d'actu tech, c'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. On est en février 2022, c'est l'épisode numéro 444, 444, le chiffre qui porte le plus bonheur dans certaines mythologies. Et ah je suis Patrick Béja, non je l'invente parce que je me suis dit il faut que je fasse un truc spécial avec 444.
Parce que c'est la moitié du 888. Hein.
Oui, c'est 777 qui porte bonheur normalement, mais bon. Bref, d'ailleurs 4, c'est pas super cool en japonais, c'est un chiffre qu'ils évitent parce que ça se lit chi en lecture chinoise. Qui veut dire mort. Donc, je ne sais pas, et c'est peut-être pour Facebook qu'en fait, les choses se passent plus aussi bien.
Voilà, c'est prémonitoire.
Exactement, exactement. Les voix douces et onctueuses que vous entendez sont celles de Cédric Ingrand. Comment vas-tu, mon ami Cédric ?
Ben, c'est pas mal. Moi, j'attends la fin de l'hiver, là, ça y est. Ça y est, j'en ai plein les pieds. Moi, j'ai envie de... Je veux du ciel bleu, je veux un peu de chaud. Mais si c'est ça l'étendue de mes problèmes, honnêtement, on va arrêter de se plaindre.
Je, en même temps, tu vois, vu d'ici, votre hiver me fait doucement rire, hein, parce que là, on a, tu sais, c'est la température 0 degré, moins 3, 2, ce genre de choses. Et comme il y a plein de neige et qu'il y a de la neige qui tombe en plus, c'est le truc qui fond et qui regèle derrière et ça fait une sorte de slush immonde.
Ah, c'est la slush dégueu, ça. J'ai connu ça au Canada, c'est catastrophique.
Terrible, terrible.
Mais non.
Mais bon, oui, effectivement, on va arrêter de se plaindre parce que il y a plus gros problèmes dans le monde, comme par exemple ce pauvre Mark Zuckerberg qui ne sait plus quoi faire avec Facebook pour séduire les clients. Mais avant de se lancer dans cette discussion, il faut aussi qu'on présente et qu'on dise bonjour à Laetitia qui est là pour la première fois avec nous. Bonjour Laetitia, comment ça va ?
Bonjour Patrick, bonjour Cédric et puis bonjour tout le monde, ça va très bien, je suis ravie, c'est ma première invitation, je suis un peu stressée parce que là il y a du Discord, il y a du Twitch, alors je suis podcasteuse aussi, mais beaucoup plus traditionnelle je crois.
Bah justement, podcasteuse dans le Café de l'e-commerce, le podcast que tu fais avec Adrien, est-ce que tu peux en quelques mots, avant que je ne remercie les Patriotes, nous te présenter pour que les gens sachent à qui ils ont affaire?
Eh bien, je suis Laetitia Lamarie, j'ai 38 ans et j'évolue dans l'univers et la stratosphère e-commerce depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans, côté éditeur, côté agence aussi, dans différents domaines de l'e-commerce. Et puis, il y a 3 ans, avec Adrien, qui n'est pas des nôtres, mais qui va nous écouter, nous avons créé le podcast Le Café de l'e-commerce, qui décrypte à raison d'une fois par semaine l'actualité du e-commerce. Et puis, on aime bien aussi débattre, donner nos avis. On aime bien aussi s'amuser. Chaque fin d'émission, on fait des petits quiz autour de l'actualité tech, digital et surtout e-commerce. Donc rejoignez-nous sur tous les stores et sur toutes les plateformes de streaming. Alors on n'est pas sur Twitch, on n'est pas encore sur tout ça, mais vous pouvez nous trouver très facilement. Non mais c'est vrai, je vois qu'on a beaucoup de retard,
Mais pas du tout, tu sais quoi ? Vraiment, le conseil que je donne aux gens qui se lancent dans le podcast, c'est de se concentrer sur ce qui est le plus important. Et clairement, Twitch, YouTube, machin, pour les podcasts, c'est sympa, mais ça représente une faible partie de ton audience. Nous, on est moins d'une centaine en live sur Twitch. Alors, c'est les meilleurs hein, qui sont là sur Twitch, évidemment, ceux qu'on préfère. Je dis ça parce qu'ils nous écoutent en ce moment, tous les mardis midi. Mais le gros de l'audience, c'est évidemment en podcast parce que c'est le moyen le plus cool de nous écouter. Donc, non, je pense qu'il faut savoir choisir ses combats. Et en l'occurrence, le podcast, c'est sur les apps de podcast essentiellement.
Tu me voles ma devise. Concentrez-vous sur un truc si vous faites un podcast et faites-le régulièrement.
Ouais, exactement.
Ça, la régularité, ça paye, vraiment.
J'ai été très, très heureux d'entendre que tu disais toutes les semaines, on le sort toutes les semaines, c'est très bien. Moi, c'est un truc que j'apprécie. Je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent ce podcast, justement, qui nous écoutent dans leur app de podcast, qui nous ont rejoint récemment. Nicole Groschin, Vincent Fritz, Portable du Garage, Alex Armentier-Père, Barreau, Adrien Philippe, Karawi Haussin, pardon, Karawi Hosin, Piccolo Faustino, j'essaye toujours de, tu vois, quand il y a un nom, machin, Simon et Olu, ainsi que les producteurs SSI78 et Peter Regal, qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Et on commence à arriver à la fin des Patriotes. Donc, à partir de bientôt, il y aura les Patriotes qui seront remerciés d'une semaine sur l'autre. Si vous nous rejoignez, si vous venez soutenir l'émission en remplacement de ceux qui, malheureusement, arrêtent le soutien, ça arrive de temps en temps, eh bien, votre nom sera cité presque immédiatement. Donc, c'est le moment. Et je remercie évidemment tous ceux qui le font. Et donc, le sujet vraiment important du jour, celui qui, je crois, éclipse tous les autres, c'est cette dégringolade de Facebook à la bourse suite à des résultats, alors, qui sont clairement pas les meilleurs résultats de leur histoire. C'est la première fois que Facebook perd des utilisateurs mensuels. Mais bon, c'est pas non plus que tout à coup, Facebook ne vaut plus rien. Eh bien, ils ont perdu, en gros, les chiffres et ont évolué pendant un ou deux jours. Ils ont perdu plus de 20%, presque 25% de valeur en bourse, ce qui représente presque 250 milliards de dollars. Ils étaient à presque 1 trillion de dollars. Ils sont descendus à autour de 750 millions, je ne doute pas qu'ils remonteront à un moment. Mais rendez-vous compte, en 24 heures, ils avaient perdu 200 milliards de dollars de valeur boursière. Ce qui est, alors, c'est pas que c'est du jamais vu dans l'histoire d'une société, mais clairement, on est dans une situation qui est un petit peu, c'est rien de dire inhabituel dans le monde de la tech. Je crois pas. J'ai pas l'impression d'avoir vu une telle dégringolade, du moins dans mon souvenir de couverture de tech. Hein. Tu es d'accord, Cédric ?
Non, pas sur une seule entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Là, c'est un truc de crack boursier. Sinon, c'est un crack boursier qui n'a touché que Facebook, donc enfin que Meta. Donc c'est pas sans précédent absolument en pourcentage. C'est
ce
probablement
que tu es en train de nous dire, c'est que Facebook craque. C'est ça, c'est que le crack de Facebook.
Facebook a craqué, mais Facebook a craqué sous le poids d'un monde qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire sous le poids d'attentes qu'il est en train de créer. Alors c'est intéressant parce que ça remet aussi plein de choses en question. C'est-à-dire que quand Zuckerberg nous dit notre avenir c'est le métaverse, bah, les investisseurs ils n'ont pas l'air convaincus parce que l'une des choses apparemment à laquelle ils ont réagi, c'est au fait que Facebook a déclaré avoir investi 10 milliards de dollars dans le développement du métaverse cette année. Moi, j'aimerais bien voir le détail de tout ça, parce que 10 milliards de dollars, c'est quand même de l'argent. C'est pas, tu vois, c'est de l'argent avec lequel tu fais... Non, mais c'est ce que ça coûte à Intel de faire une usine de microprocesseurs. Enfin, c'est... Bon, 10 milliards de dollars juste en salaire de développeur, en développement d'un peu de hardware, etc. Bon, pour l'instant, évidemment, on n'en voit pas le résultat, et je pense que c'est aussi ce qu'ont sanctionné les investisseurs. Et puis, avec une vision qui n'est pas d'une immense clarté, tu vois, à part de dire, ouais, on va y aller, ça va être super, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout ça sur fond d'un cœur de business aujourd'hui qui est la pub et qui lui va pas très bien parce que pour la première fois par exemple Facebook a perdu des utilisateurs. Alors ça fait partie des choses qu'on prédisait depuis assez longtemps parce qu'il y a un effet générationnel où les jeunes générations vont plutôt sur TikTok, plutôt sur Insta, etc. Mais enfin voilà, ça faisait quand même une espèce de perfect storm d'annonces un peu décevantes. Et puis les investisseurs ils te donnent pas, tu vois, c'est pas un bon point qu'ils te donnent pour tes actions passées, leur investissement. C'est ouais. Investissement sur l'avenir. Et ben là, l'avenir, il est un peu genre qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Il y a eu un excellent petit article de garbageday.email, qui est le blog de Ryan Broderick, qui a noté un tweet de Nikita Beer, peu importe d'où ça vient, mais il y a une analyse que j'ai trouvée hyper intéressante pour comprendre vraiment pourquoi la dégringolade a été aussi forte. Parce que je pense que la réaction de beaucoup, c'est de se dire, ah ben voilà, le marché, ça veut rien dire, c'est que du vent, c'est des trucs aux doigts mouillés, machin. Et évidemment qu'il y a un petit peu de ça. Mais c'est aussi la concrétisation, c'est le point de bascule sur des choses dont on parle depuis bien longtemps, à propos de Facebook, notamment le fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui quittent Facebook, qu'ils n'attirent plus les plus jeunes, etc. Et le moment où ça y est, ils annoncent, bah, pour la première fois, on a perdu des utilisateurs. Bah, c'est un déclencheur, en fait, mais qui n'est pas sans cause. Et les explications que donnait Nikita Beer m'ont paru extrêmement judicieuses. Il dit, il y a plusieurs raisons. D'abord, les utilisateurs avec un gros ARPU, vous savez ce que c'est le ARPU, c'est Average Revenue Per User, donc avec des gros revenus.
Revenu moyen par utilisateur, ouais.
Voilà. Revenu moyen par utilisateur. Donc, les utilisateurs avec un gros revenu potentiel, eh ben, ils sont plus tellement... Non,
les utilisateurs qui rapportent beaucoup.
C'est ça.
L'ARPU, c'est celui de Facebook sur leur dos, celui des utilisateurs.
Ah oui, bien sûr. Les utilisateurs qui représentent pour Facebook un gros revenu potentiel, voilà. C'est ce que je voulais dire. Eh bien, ils ne sont plus vraiment sur Facebook. Ils sont partis.
Ils ont quitté le navire, oui.
Exactement. TikTok est un petit peu en train de manger leur repas, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Et donc, les plus jeunes ne viennent pas sur Facebook. Donc, contrairement à ce qui se passe avec Grâce à vous sur le Patreon du Rendez-vous Tech, le renouvellement de ceux qui partent ne se fait pas sur Facebook. Donc, clairement, pour le Rendez-vous Tech, les choses se portent beaucoup mieux que sur Facebook. Mais la deuxième raison, c'est qu'ils ne peuvent pas, contrairement à ce qui s'est parfois passé par le passé, acquérir des sociétés pour acquérir des nouveaux utilisateurs ou des nouveaux produits, parce qu'on a un climat qui est très anti-monopole. Donc, ça serait compliqué pour Facebook d'acquérir, évidemment qu'ils ne pourraient pas acquérir TikTok, mais ce genre de choses, ça ne serait pas possible. Donc, ils n'ont pas de relais de croissance par ce biais. Ils ne peuvent pas non plus construire des choses avec des choses qu'ils ont acquises par le passé, parce que les fondateurs se barrent, ils ne veulent pas aller chez Facebook et ils ne veulent pas les choses qu'ils ont acquises par le passé ou même d'autres choses, d'autres gens qui seraient compétents. Bah, Facebook, ce n'est plus du tout sexy. Le problème de la publicité est évidemment important parce que les histoires de Apple qui bloquent les identifiants publicitaires, même si Facebook a quand même pas c'est pas la seule cause des problèmes de Facebook, même si Zuckerberg pointe ça du doigt, ça cause quand même du tort. Et encore une fois, l'ambiance est que du côté de la pub, ça va pas forcément super bien, même si Google s'en sort, hein, et leur relais de revenus, c'est uniquement la pub aussi, en énorme majorité. Et puis, le dernier point, c'est que le métavers dans lequel ils investissent énormément, comme l'a dit Cédric, eh ben, les résultats, eux-mêmes le disent, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas des sortes de petits univers en 3D comme on les voit fleurir ici et là avec le buzzword métavers. C'est un projet qui pourrait donner quelque chose de concret dans 10 ans, tel que l'envisage Facebook. Donc, ils sont coincés de partout. Ils sont dans un coin et il n'y a aucun endroit où aller. Et un autre truc, et je vais donner la parole ensuite à Laetitia, mais un autre truc qui est important à noter aussi, c'est que Zuckerberg a dit, pour donner de l'espoir aux investisseurs, on a donné comme direction à nos équipes de s'orienter à fond sur la vidéo. Et évidemment, pour chasser le succès de TikTok. Le problème, c'est qu'ils ont déjà tenté de faire des trucs en vidéo et qu'ils ont été tellement mauvais dans le suivi de cet écosystème et avec un algorithme qui priorise, on dit souvent que YouTube, ça donne la priorité aux trucs, enfin, tous les algorithmes donnent la priorité aux trucs qui vont vous énerver, qui vont vous faire cliquer, qui vont vous faire commenter. OK, mais sur Facebook, c'est la même chose en 10 fois pire. Toutes les vidéos sur Facebook, c'est une sorte de... Enfin, c'est que des trucs qui vont vous montrer « Ah, vous n'allez pas croire à ce qui va se passer au bout de 10 minutes de vidéo. » Enfin, je vais même pas...
Plutôt au bout de 3 minutes, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un métrique à 3 minutes important chez Facebook. Tu vois plein de vidéos idiotes sur « Ah, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va pas sauter ?»
Et
à chaque fois, ça dure 3 minutes 12.
Et le donc, je pense que le métrique est à 3 minutes. Il y a des gros problèmes avec la vidéo sur Facebook. C'est trop tard. Ils ont tenté il y a quoi, 4-5 ans. Ça s'est complètement planté. Maintenant, tu peux pas, au moment où justement TikTok est en train de bouffer ton repas, tu peux pas tout à coup te dire « Ah bah si, en fait !» Donc, énorme problème. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste tout à coup, les investisseurs ont dit « Ah bah Facebook, maintenant, on n'aime plus sans raison. » Il y a de réels problèmes. Ça veut pas dire non plus qu'ils sont morts à coup sûr et qu'ils sont condamnés. Mais par contre, il y a de réelles et sérieuses difficultés pour Facebook à l'avenir si ces tendances se confirment. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Laetitia, je ne sais pas si tu es une grosse utilisatrice de Facebook. Personnellement, je n'y mets jamais les pieds. Mais c'est un peu un symptôme. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu investirais aujourd'hui tes 750 milliards dans Facebook?
Alors non, pour la simple et bonne raison que déjà j'ai un problème avec le personnage de Mark Zuckerberg. Alors j'ai pas envie de dire que je me réjouis de ce qui lui arrive, mais j'ai quand même une petite voix interne qui me dit finalement quand même ça lui arrive et c'est pas des scandales qui lui arrivent à la Cambridge Analytica, non, ce sont ses propres résultats, donc il est pas invincible. Et ça c'est la première bonne nouvelle, parce que quand même moi pendant longtemps je l'ai cru comme beaucoup d'autres personnes un peu le roi du monde,
indéboulonnable,
et à piller énormément de ressources et à ne respecter aucune règle, parce que quand même il est vraiment au-dessus de tout. Et là, bah voilà, ce sont ses propres résultats qui parlent, et c'est tant mieux. Et je te rejoins, Cédric, sur le fait que tout ça, ce sont des signaux que les investisseurs voient un peu comme des mauvais signaux. C'est pas noir, mais en tout cas c'est très rouge. Son projet dans le métaverse, à part sa petite vidéo avec sa femme qui est très rigolote et qui a été parodiée, c'est pas moi, je comprends son projet de métaverse, mais voilà, je me dis, mais quel est le tournant de Facebook, enfin de Meta? Et puis, une fois que tu as racheté tout le monde, que tu as racheté déjà Instagram, voilà, et puis finalement, tu n'arrives pas trop...
Et WhatsApp,
Et WhatsApp, voilà. Comment est-ce que tu fais pour te différencier? À part lorgner sur ce que fait ton concurrent chinois, et tu as bien les boules que ce soit un chinois qui te mette à l'amende, ouais. Il va falloir se renouveler. Et lui s'est dit, je vais me renouveler avec du métaverse. C'est un peu flou, mais allez les gars, on y va. Et encore une fois, je suis au-dessus de tout. Et puis, je passe aussi le fait que la crypto-monnaie qu'il a voulu lancer, alors Libra,
oui.
Diem, qui s'appelle Diem, on n'entend plus parler.
C'est dommage, ils ont vendu. C'est la semaine dernière, ils ont vendu.
Ils en sont sortis, mais c'est dommage. C'était peut-être l'une des meilleures idées qu'ils aient eues jusque-là.
Ouais,
c'est vrai. Parce qu'en plus, ça avait un côté immédiatement utile, assez
innovant. Exactement.
Tout le monde grognait, mais je trouvais
que le market qu'on pouvait comprendre, mais alors.
Exactement. La gouvernance était bien imaginée. Enfin, il y avait là, je leur en veux pas. Mais je suis d'accord avec l'analyse que citait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à coup, ça, c'est Facebook se trouve devant trois portes, A, B ou C. Et alors, la porte A, c'est la croissance organique. Ça apparemment ça marche plus. La porte B, c'est de faire des rachats, ça risque de pas marcher longtemps parce que évidemment il y a des problèmes de part de marché, de monopole. Et la porte C, c'est l'innovation, mais on les a jamais trop vu faire, hein, l'innovation, la vraie, tu vois ce que je veux dire. Au-delà des effets d'annonce, faut se souvenir du cimetière des applications, des trucs que Facebook a lancé, etc. Alors c'est vrai que c'est bien, moi je trouve ça toujours assez bénéfique en technologie de savoir dire qu'on s'est trompé et de s'arrêter et de pas s'entêter. Mais eux, tu parlais de la vidéo tout à l'heure, leur stratégie sur la vidéo, et des fois ils en changeaient tous les 6 mois, c'est-à-dire que c'était illisible pour les créateurs de contenu. Ils sont allés voir des maisons dont la vidéo est le métier, à qui ils ont même fait des chèques, tu vois, pour faire des formats spécifiques, beaucoup de Facebook Live, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, c'était genre, finalement, on arrête ça. Ah bon, tout le monde a arrêté d'en faire, du coup. C'était pas lisible, ils ont pas réussi à le rentabiliser. Je suis d'accord que quand tu vas sur Facebook vidéo aujourd'hui, c'est quand même c'est beaucoup de trucs.
C'est le foutoir. Ouais. Et alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu à ma petite passion qui est le e-commerce. Pendant le confinement, on a eu beaucoup de... Alors le premier confinement, maintenant, il faut parler en termes de... en tout cas en 2020, quand on a eu le rapprochement aussi Shopify et Facebook, Mark Zuckerberg encore à grands coups de vidéo, je vais aider les commerçants, les petits commerçants, je vais vous aider à vous digitaliser. Vous allez voir, le e-commerce va se passer uniquement sur le groupe Meta, qui s'appelait pas Meta à l'époque, mais en tout cas sur les plateformes de Facebook. Et ben non, en fait, là aussi, je vais pas parler d'échecs, mais en tout cas gros effet d'annonce. Et pour autant, les gens n'achètent pas plus sur Insta ou encore moins sur WhatsApp ou sur Messenger qu'avant. Donc là aussi, grand effet d'annonce. Et il n'y a pas eu la révolution digitale et commerciale, e-commerciale, on va dire, escomptée. Donc beaucoup de déceptions quand même avec ce marque. Bien fait, Marc.
Mais c'est vrai, il y a un petit peu de Schadenfreude, c'est comme ça qu'on dit, à voir Zuckerberg tomber un petit peu de son piédestal. Bon, n'exagérons pas non plus, Facebook reste le plus gros réseau social de loin. Ils ont 2 milliards d'utilisateurs sur Instagram, 1 milliard sur WhatsApp. Bon, il y a de quoi se relever, mais clairement, les perspectives ne sont pas géniales. Dans l'article de Garbage Day, il y a également... Garbage Day, c'est le vendredi, hein, vous savez, c'est là qu'on donne les news qu'on ne veut pas voir reprendre, mais qu'on est obligé de donner. Mais il y a également le top 10 des pages les plus linkées sur Facebook aux États-Unis pendant les dernières 24 heures au moment où il a écrit cet article. Il y avait Breitbart, qu'on connaît, Ben Shapiro, vous connaissez peut-être pas Ben Shapiro, mais oui, c'est un commentateur d'extrême droite américaine qui est parmi les plus trash qui soit, enfin... qui se donne... Enfin, bon, bref. Ben Shapiro, Dan Bongino, un petit peu pareil, etc., etc. C'est que des trucs comme ça. Donc, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et c'est marrant parce qu'on a, dans le même temps, les résultats de Google, qui, eux aussi, se reposent énormément sur la pub. Autant, peut-être, que Facebook, mais qui se reposent énormément sur la pub et qui font beaucoup mieux. Amazon, accessoirement, fait très, très bien également. Mais... Du coup, si je peux me permettre de quitter un tout petit peu cette Schadenfreude et du réjouissement de Zuckerberg et du plaisir de voir Facebook un petit peu se faire fermer son clapet, il y a une chose à laquelle j'ai immédiatement pensé en entendant cette news, c'est le fait que ce qu'ils disent tous ces acteurs de la tech depuis des années, en fait, c'est pas forcément faux. Et je vais me permettre donc de faire un tout petit peu... C'est le moment que vous attendiez, l'avocat du diable de Patrick, parce que ça veut dire que les géants de la tech, ils sont pas inattaquables. On est dans un environnement où l'écosystème est dynamique, où n'importe qui peut lancer une app, et on l'a vu avec TikTok, ils sont en train de bouffer le repas, je le dis pour la quatrième fois, de Facebook, et c'est tout à fait possible. Et maintenant, Facebook est vraiment dans la mouise, parce que ils sont dans un... C'est pas qu'ils ont une infrastructure de concessionnaires de voitures et des usines qu'il faut avoir pour construire les voitures et les transporter et machin. Non, tout se passe par Internet et tous ces acteurs, en fait, ils sont extrêmement solides, ils ont des moyens de défense, mais ils ne sont pas inattaquables. Et il y a la compétition qui est bien vivante. Donc, je vous ouvre le micro pour essayer de me dire que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça semble être une preuve, quoi.
Ouais, la grosse différence, comme tu le disais avec un Google, c'est qu'on sent que Google a quand même, on a un peu plus sous le pied en termes d'innovation, on a plus sous le pied en termes de diversification parce que t'as Google Cloud, t'as plein de choses. Donc, je suis d'accord sur le fait que Facebook est pas mort. Hein. Pour l'instant, leurs problèmes sont, comme dirait une amie comtesse, des problèmes de riches, mais des vrais problèmes quand même. Mais ils ont encore tout ce qu'il faut.
Non, je confirme. Nous, les riches, on a aussi des vrais problèmes.
Mais attends. Et donc, ils ont ce qu'il faut pour réagir. Mais là où on va en revenir, de toute façon, et je suis étonné que ce soit pas venu plus rapidement dans toutes les conversations. C'est que le problème, c'est pas Facebook, le problème, c'est pas Meta.
C'est Zuckerberg. Problème,
ben voilà.
Ben oui, ouais, on y vient. Effectivement.
Qui a créé sa tour d'ivoire. Il est indéboulonnable. La structure même de gouvernance de Facebook est faite de telle façon à ce que, ben il peut pas bouger. Alors que, si tu veux, n'importe quelle autre société cotée de cette taille-là, dans cette situation-là, c'est la première question qui se poserait. On se dirait, bon, on a peut-être un problème de management, peut-être qu'il va falloir, etc., etc. Le problème, c'est qu'il a au bord, autour de lui, des gens qui lui disent oui, c'est bien, oui, ah bah super Marc, merci Marc, c'est bien Marc. Donc évidemment, en plus, je pense qu'il est dans une situation où il y a peu de... Ça me rappelle toujours ça, Silicon Valley, la série. Je sais pas si tu l'as vu, Patrick, tu l'as forcément vu.
Et
la
non,
série
de... c'est, tu
oh sais, t'as non. jamais regardé Silicon
regardé
Valley.
Ah ben, il faut que tu regardes.
Je sais. Ah, mais bien sûr. Et voilà, dans Silicon Valley, il y a une société fictive ou parafictive qui s'appelle Hooli et qui est en fait une espèce de croisement entre Google, Google, Facebook, Salesforce,
Mais, si. Mais bien sûr que j'ai vu Silicon Valley. Je confondais avec Alt and Catch Fire. Pardon. Oui, oui, bien sûr.
Non. Voilà. Et avec, tu vois, le patron qui est là, qui a des idées complètement idiotes, et qui, tu sais, à un moment, il décide qu'ils vont faire du cloud et que finalement, non, ils vont vendre un ordinateur à la place. Enfin, bref. Tout est con. Et
Facebook, c'est ça.
Et avec autour de lui des gens qui disent « Yeah, that's fantastic ».
Ouais, ouais. Mais du coup, alors, OK, partons sur cette idée. Et je demande à Laetitia, qui semble pas porter Marcou dans son cœur, est-ce que tu crois, du coup, que si jamais on réussissait à déboulonner l'indéboulonnable Zuckerberg, ce qui, oui, vraiment, on demande dans la chatroom, il est vraiment impossible à déboulonner, il a 51% des pouvoirs de décision du board avec ses actions, la manière dont c'est structuré. Donc, concrètement, oui, il est indéboulonnable, à moins qu'il y ait...
Oui, il est indéboulonnable.
Ouais. À moins qu'il y ait un processus légal que je ne connais pas, oui, il est indéboulonnable. Mais du coup, si jamais le board réussissait à remplacer Zuckerberg, est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre, est-ce que Facebook ou Meta dans son ensemble, mais Facebook en particulier, peut être réorienté dans une direction plus positive, ou est-ce que c'est fini, il faut tout jeter au feu et brûler
Mais non, il ne faut pas jeter... c'est quoi l'expression le
bébé avec l'eau du bain.
L'eau du bébé. Voilà.
Il ne faut pas jeter l'eau du bébé avec le bain. Voilà. Gardez l'eau du bébé, elle est précieuse. Vous pouvez la vendre en NFT après, tout ça.
Exactement. Mais je pense que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas pourri foncièrement chez Facebook. Ça reste quand même une belle histoire, Facebook, hein, qu'on se le dise. Et une belle success story. Maintenant, c'est vrai que le personnage et la manière... Tu parlais de management, Cédric. Oui, il faut. Je vois pas comment il peut se lancer dans le métaverse avec cet état d'esprit-là, en menaçant comme il l'a fait hier, en disant puisque c'est comme ça, je quitte l'Union européenne et toutes les applications. Bon, là,
il faut qu'on explique effectivement.
Parce qu'en plus, j'exagère un peu.
À peine. Il a prévenu les autorités américaines que si la législation ne trouvait pas de bon emplacement au Privacy Shield en Europe, c'est-à-dire l'utilisation de données de citoyens européens sur des serveurs américains, s'ils étaient obligés de les utiliser sur des serveurs en Europe, il a dit « Ah bah dans ce cas-là, on serait obligé de quitter l'Europe, genre de fermer Facebook en Europe. » Et enfin, c'est bien sûr Facebook
très bon
France,
signal aux investisseurs.
Super. C'est genre un quart des revenus de Facebook, l'Europe. Donc évidemment qu'ils vont quitter l'Europe. Ça n'a absolument pas de sens, c'est complètement ridicule.
Mais ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, Mark Zuckerberg, on ne comprend pas trop quoi. Jour j'ouvre, un jour je ferme, un jour je suis d'accord avec vous et un jour je suis au-dessus de vous. Il faudrait que quelqu'un au board puisse le succéder, mais je pense qu'ils sont tous biberonnés à la stratégie et à la logique Mark Zuckerberg. Je vois pas trop comment ça pourrait être possible. La meilleure des solutions, ils peuvent pas, voilà. Oui. C'est qu'il va rester et puis il va se reprendre encore à chaque quarter des mauvais chiffres et au bout d'un moment, il va s'en rendre compte quand même.
Ouais, mais je sais pas. Moi, je me demande aussi s'il est pas possible que d'une manière ou d'une autre, il réussisse à à redresser la barre. Je sais pas très bien comment. Comme on l'a dit, toutes les portes sont un petit peu des pièges. Mais...
Ah, mais où c'est ?
Ouais, c'est ça, exactement.
Il est dans Fort Boyard, je crois, dans Zuckerberg.
Il y en a qui arrivent, hein. Mais bon, je sais pas, effectivement. Donc, j'ai pas vraiment de prévision à faire à ce stade. Ce qui est certain, c'est que ça, en fait, ça sera soit un moment dont on se souviendra comme le début d'une longue déchéance, d'une longue et lente déchéance, une longue déchéance, soit un accident qui finalement ne s'est pas forcément répété. Mais bon, en conclusion, ouais. Cédric, toi, tu le vois comment ? Accident ou début de tendance ?
C'est pas un accident, hein. C'est plus profond que ça, et je pense qu'ils sont un peu kéblos, c'est-à-dire que jusque là on disait bon, mais c'est pas grave, le jour vraiment ça ira plus avec Mark, et ben on mettra Sheryl Sandberg à la place, mais Sheryl Sandberg elle s'est aussi quand même pas mal grillée sur, tu vois, pendant toute la période Trump, non, il y a des trucs qu'on peut, bref,
exactement,
comme dirait un prof d'éco que j'aime bien, Sheryl Sandberg c'est tu mets du rouge à lèvres sur un cancer.
Voilà. Je la connais pas assez pour la juger à ce point-là, mais...
Non,
Mais oui, mais parce que, enfin, ils ont fait un boulot qui est à la limite du nuisible. Moi, je suis ravi de voir que j'ai plein d'amis qui travaillent chez Facebook, de près ou de loin, et je suis ravi de voir qu'ils quittent Facebook les uns derrière les autres. Oui. Et là, donc, ce sera pas Sheryl Sandberg. On voit personne d'autre pour le. Mais à un moment, il va falloir qu'il y ait une reprise en main, c'est-à-dire qu'il va y avoir, sinon une révolte des actionnaires. C'est compliqué. Il faut que Facebook arrive à prouver qu'il peut continuer à croître. Et pour l'instant, on voit pas comment ça va se passer. Voilà. Et normalement, c'est un truc qui ne peut pas être sans conséquence. Ou alors Zuckerberg va dire, moi, ça, c'est pas grave, ça me va, on va battre en retraite, on sera trois fois plus petit, mais à la limite, c'est pas grave.
Et on reviendra avec le métavers dans 5 ou 10 ans, et vous allez voir. Et... Oui, c'est tout à fait possible.
Là aussi, on a du mal à y croire, parce que encore une fois, si tu veux,
si on y croyait, ils auraient pas dégringolé, c'est clair.
Sur les 8 milliards d'individus qu'il y a sur la planète, je pense qu'on peut en lister pas mal avant d'arriver à Mark Zuckerberg comme responsable de l'univers de demain, tu vois.
Ouais, c'est pas bon. Bref, on va pas repartir sur le métavers, c'est pas le sujet, mais. Moi, je suis moins critique que le reste du monde sur le métavers. Mais Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose et puis on conclut sur le sujet.
Non, ben moi je me dis que si Facebook, enfin le groupe Meta comme ça envoie ce genre de signaux, ben du coup moi j'ai très peur pour le reste des GAFAM. Alors non, j'ai pas très peur parce que je sais qu'Amazon se porte très très bien, tu viens de le dire, Google aussi. Donc finalement oui, c'est un peu une guerre fratricide qui est en train de se dérouler, voilà, un peu à l'ancienne comme nos comment est-ce qu'on allait dire ça, dans la Grèce antique ou la Rome antique, voilà. Hein, de toute façon, ils peuvent pas rester comme ça indéfiniment les rois du monde. Il y aura forcément des morts hein, sur le chemin. Il y aura un après, exactement.
Et à chaque fois, on n'arrive pas à croire qu'il y aura un après. Moi, je me souviens à l'époque où on disait non, c'est pas, il y aura pas un après Yahoo, c'est pas possible. Ouais. Hein. il y aura pas un après Alta Vista. C'est vieux pour me souvenir de ça. il y aura un après. C'est difficile de l'imaginer dans l'instant. Imaginez aujourd'hui qu'il y aurait un après Google, c'est compliqué. Alors c'est peut-être de plus en plus compliqué d'ailleurs, mais comme un après Apple. Mais et pourtant, il y aura.
Et à côté de ça, Apple, Google, Amazon et Microsoft se portent très bien. Bon, bah écoutez, un grand merci pour ces avis et ces analyses, et un grand merci aussi et surtout à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Vous savez que le café, c'est important le café, il ne faut pas trop en boire. Je le sais, vous le savez, et pourtant, vous en buvez une dizaine par semaine. Eh bien, j'ai une solution incroyable à vous proposer. On dirait que je suis en train de faire une vidéo Facebook là. J'ai une solution incroyable à vous proposer. Vous pourriez n'en boire que 9 et à la place du 10e, soutenir le Rendez-vous Tech. Et voilà, deux problèmes réglés en un coup. Vous buvez moins de café et vous avez le plaisir, l'honneur et la joie de soutenir le Rendez-vous Tech. Financièrement, vous devenez un patriote. Vous faites une action active. C'est une action active, c'est nouveau, pour soutenir un créateur que vous appréciez. Et en retour, non seulement je vous apprécie en quintuple, mais en plus de ça, vous avez droit à plein de contenus bonus. D'ailleurs, j'ai demain un petit édito qui arrive pour faire le point sur les bilans, la progression, et y compris des questions financières. Bon, je ne vous donne pas tous les chiffres, mais la progression financière de la société au niveau de la pub, au niveau de Patreon, etc. Et je partage comme ça plein de choses. Alors, parfois, c'est des analyses sur des sujets, parfois, c'est la vie de podcasteur, etc. Mais il y a plein de contenus en plus. Il y a les time codes dans les émissions si vous voulez sauter certains sujets. Il y a plein de trucs super cool. Et en plus de ça, vous soutenez l'émission et j'espère que vous l'appréciez, le fait de soutenir l'émission, parce que vous faites partie de ce qui permet à l'émission d'exister. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent sur Patreon. Et si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour vous délester d'un café que vous transformez en euro de soutien au Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et à vous toutes.
Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, là, les sujets suivants, c'est le reste des petites news. Alors, je n'ai pas encore bien l'habitude de tous les jingles, hein, mais il y a les petits changements de section. Le reste des news maintenant. Le reste des news, c'est notamment... on va parler un tout petit peu de blockchain, NFT un petit peu, mais surtout de... Il y a un truc qui est assez intéressant qui se passe en ce moment dans le domaine des startups de réalité virtuelle. C'est une société qui fait du Monopoly, mais avec des adresses réelles. Alors, il y a plein de sociétés qui vendent des parcelles de terrain dans un univers virtuel avec des NFT, machin. C'est pas tout à fait de ça que je parle, même si elles font beaucoup de bruit en ce moment. Il y en a une qui fait genre des adresses réelles que vous pouvez acheter et vendre dans une sorte de Monopoly. Et là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que ça pose des problèmes à des gens dont on vend et on achète virtuellement l'adresse réelle sans qu'on leur ait demandé leur avis. Et ça, c'est le genre de problème qu'on ne pouvait pas imaginer qui se poserait, même s'il y a eu des trucs un petit peu similaires par le passé. Mais ça commence à devenir un vrai problème. Et je n'ai même pas vraiment de réponse. Est-ce que ça devrait être autorisé ou pas? Alors, il n'y a pas vraiment de représentation 3D de ce genre de choses. C'est beaucoup plus une carte de Monopoly, enfin un plan, et on peut acheter ou vendre les adresses. Mais d'un côté, je me dis, bon, bah, c'est virtuel, ça n'a pas... Mais d'un autre côté, ça peut avoir des conséquences dans le monde réel. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il faudrait l'interdire? Est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas. Vas-y, Laetitia.
Ouais, toute la question des NFT et du métaverse. Quelle est la loi? Qu'est-ce qui prévaut dans ce monde virtuel? Bah, actuellement, il y a un flou juridique. Moi, personnellement, si mon adresse est achetée... Bah, je me sentirais un petit peu dépossédée de quelque chose.
Oui, mais
en
non,
même
parce
temps,
que
vers qui je me retourne, je ne sais pas.
Tu peux être propriétaire d'un lieu, mais tu n'es pas propriétaire de ton adresse.
C'est vrai.
Tout comme le
mais il y a tout cet attachement un peu émotionnel. Voilà, alors c'est comment
ouais,
est-ce
mais
que
c'est
ça,
même,
tu arrives
ouais.
à...
C'est même encore plus que l'attachement, parce qu'effectivement, concrètement, ça a des conséquences sur... Bah, tu dis, ah bah merde, c'est mon adresse qui est vendue. T'es pas propriétaire de l'adresse, même si t'es propriétaire du lieu. Mais au-delà de ça, l'idée que l'endroit où toi tu habites puisse devenir un truc, je sais pas, hyper spéculatif sur l'un de ces plateformes...
T'en touches pas un centime.
T'en touches pas un centime, il y a peut-être plusieurs... Bah, si c'est une maison individuelle, effectivement, la question peut se poser. Mais même, je sais pas, si le truc devient célèbre. Toi, t'as rien demandé à personne. Et il y a des gens qui se l'échangent, machin, et qui connaissent ton adresse, bah, ils savent pas que c'est la tienne, mais peut-être que... je sais pas, ça met un focus sur le truc. Cédric, t'as l'air de penser que c'est pas un problème.
Bah, c'est pas... tu vois, le Monopoly original te vend l'avenue de Vaugirard
c'est pas la rue de la Paix, c'est 14 rue de la Paix. Tu vois, c'est l'endroit spécifique.
Donc, oui, mais ce n'en sont que les coordonnées géographiques. C'est pas ta maison, c'est pas, tu vois, il y a pas d'intrusion chez toi. C'est pas lié à ton nom, c'est pas. Donc c'est un procédé assez simple parce que ça va quand même te pousser à acheter ta propre adresse. Donc c'est quand même vachement bien foutu. Mais au-delà de ça, je vois pas la violation. Tu vois le côté genre, mais non, mais c'est chez moi. Bah oui, mais non, mais ton adresse, elle est partout, elle est dans toutes les bases de données, elle t'appartient pas. Pourquoi serait-elle moins autorisée dans cette base de données que dans les autres? Tu sais, il y a plein de choses qui sont publiques. En France, quand tu achètes ou que tu vends une maison, un appartement, etc., il est impossible d'en garder le prix secret. Le prix, il est en open data sur Internet pendant 5 ans.
Exactement. Ouais, ouais. Et donc, j'ai déjà fait cas avec des acheteurs qui m'ont dit « Mais je ne comprends pas, vous l'avez acheté tant votre appartement il y a 5 ans, et là, vous me le revendez 10 fois plus cher.
Bah, » oui.
J'ai été voir, ah non, c'est pas normal.
Ah, mais c'est, bah,
je fais ce que je veux.
Ah, ouais. Ça s'appelle, allez voir ça, hein, ça s'appelle DVF, c'est Open Data des valeurs foncières, si je me souviens. C'est extraordinaire, parce que là, tu vois maison par maison, etc., etc., oui. combien les trucs se sont vendus à l'euro près, pas juste ça a été publié. Ouais, ouais. Bref. Et voilà, voilà une donnée où là tu pourrais dire non mais attendez, ça ne concerne que moi et l'acheteur. Ouais ben non, voilà. Et c'est bien tagué avec l'adresse. Il n'y a pas ton nom quand même sur le listing, mais enfin quand même.
Ouais.
Donc je comprends que ça chouine un peu, mais honnêtement ça n'ira pas plus loin que ça parce que ton adresse ne t'appartient pas.
Bon, tu me convaincs un petit peu, du coup je suis un peu plus circonspect, très bien. Parfois, il m'arrive de changer d'avis quand je suis pas 100% sûr. Écoute, il y a d'autres gens qui changent d'avis, notamment les Américains et le Parlement américain, avec un comité judiciaire du Sénat qui a approuvé un projet de loi qui s'appelle le Open App Market Act, qui imposerait aux constructeurs, c'est-à-dire concrètement Google et Apple, à autoriser les App Store tiers sur leur plateforme, sur iOS et sur Android. Alors, il y a eu des sujets autour de cette question depuis des mois. Et là, c'est un truc que j'avais pas vu venir, pour être parfaitement honnête. Clairement, ils en parlaient depuis un moment. Alors, c'est pas du tout une loi encore, hein. C'est un projet de loi qui doit être approuvé par le Sénat, par le Parlement, etc. Mais ils sont très sérieusement en train de travailler sur l'idée qu'il faille imposer l'autorisation d'app tierces sur les plateformes Apple et Android. Et vu le climat anti-tech en ce moment dans la sphère politique américaine, il n'est pas du tout impossible que ça ne passe pas. Donc, il est possible que ça passe, double négative. Et donc, ça serait, alors là, on passe plus par la Corée, les Pays-Bas, les je ne sais quoi. Ça serait vraiment, bam, là, c'est bon, c'est autorisé et c'est tout. À voir si ça sera retoqué, réécrit, je ne sais pas quoi, mais ça m'avait un petit peu surpris et ça pourrait se concrétiser, quoi. D'ailleurs, en parlant d'Apple, ils ont annoncé le montant de la commission qu'ils prendront pour les paiements tiers sur d'autres plateformes. Vous savez que ça a été imposé justement aux Pays-Bas pour les applications de rencontres. Et donc, ils baissent leur commission de 30% à 27%, ce qui correspond à peu près généralement aux tarifs que coûtent les moyens de paiement. Ils prennent, on va dire, allez, 3%. Mais ce qui, en même temps, est complètement contraire, pour moi, à l'esprit de la loi, puisque l'idée était de permettre aux gens d'avoir une concurrence sur les moyens de paiement et que, de cette manière, en faisant 27% plutôt que 30%, on n'a que des avantages à aller chez Apple. Parce que on a, peut-être pas que des avantages, mais il y a beaucoup plus de simplicité. Économiser 3% pour se prendre la tête avec toutes les opérations que ça nécessite par ailleurs, clairement, c'est pas très avantageux. Moi, je trouve que c'est assez, assez grossier comme manière de faire les choses. ça m'a un petit peu... ça devrait pas me surprendre, mais ça m'a quand même un petit peu étonné. Et Apple est en train de développer visiblement un moyen d'avoir des notifications push par les applications web, ce qui pourrait ne pas être important, pris en isolation, mais étant donné qu'ils poussent tellement les restrictions avec l'App Store, peut-être qu'ils vont dire encore plus qu'avant, si vous voulez faire un truc ouvert où vous choisissez, voilà, vous avez les web apps et vous faites ce que vous voulez avec les web apps. Venez pas nous emmerder sur l'App Store. L'App Store, c'est notre truc. Mm-hmm. Et l'autre écosystème, vous regardez, vous avez même les notifications sur les web apps maintenant. Donc,
c'est génial. Vous voyez même pas la différence.
Exactement. Donc, voilà, un petit trio de news Apple qui me paraissait intéressante et surprenante. On peut parler un tout petit peu plus de Joe Rogan. On en a parlé la semaine dernière.
On va en parler.
Vous avez hâte. On a parlé un petit peu la semaine dernière de Joe Rogan et des problèmes divers auxquels il doit faire face sur Spotify. L'une des raisons pour lesquelles je voudrais en reparler, c'est qu'on m'a fait remarquer, là encore, parfois, il m'arrive de faire des choses pas aussi bien qu'il le faudrait, on m'a fait remarquer qu'on a un petit peu esquivé un des éléments essentiels de cette question, c'est la relation qu'ils ont avec Spotify et l'importance qu'a Joe Rogan, le podcast de Joe Rogan, suivi par 11 millions de personnes, pour Spotify spécifiquement. Donc, je reviens dessus un instant. Joe Rogan, podcast extrêmement populaire et racheté, dont Spotify a acheté l'exclusivité de la diffusion, pas le podcast lui-même, mais l'exclusivité de la diffusion pour 100 millions de dollars. La raison pour laquelle Spotify a beaucoup de mal à condamner et à éventuellement se séparer de Joe Rogan, c'est qu'ils sont dans une bataille constante avec les géants de la musique. Le produit principal de Spotify, c'est la musique, sur laquelle ils ont très peu de contrôle, c'est pas un produit qui est à eux, et ils ont des frais pour la musique qui augmentent avec leur croissance à eux et qui représentent une énorme partie de leurs revenus. Alors que sur le podcast, ils gardent une énorme partie des revenus du podcast et ils contrôlent beaucoup plus la chose. Donc, la raison pour laquelle Joe Rogan est aussi important pour Spotify, c'est que c'est leur leur bouée de sauvetage, en quelque sorte. C'est leur moyen d'avoir de la croissance. Les pubs qu'ils mettent sur le podcast en question sont incroyablement chères. Ils ont d'autres podcasts aussi parce que, pour rappel, ils ont acheté l'exclusivité de la diffusion, donc on ne peut plus écouter le podcast de Joe Rogan ailleurs que sur Spotify. C'est ça. Et donc, tout cet écosystème de podcasts, c'est l'autre activité de Spotify par rapport à la musique. Et la concurrence est hyper importante entre les deux. Donc c'était un élément qu'il fallait préciser. Mais d'une manière générale, est-ce que... Cédric, je sais que le podcast te tient à cœur. Tu as un avis sur les controverses autour de Joe Rogan, ce que devrait faire Spotify, qui est devenu une plateforme ?
Non, mais c'est ça. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, en fait. Les gens disaient, mais pourquoi est-ce que Spotify serait responsable de ce qui se passe sur sa plateforme ? Tu vois, au même titre qu'un Apple, qu'un Deezer, etc. Là, évidemment, la grosse différence, c'est que Spotify n'est pas juste une plateforme de diffusion, mais ils sont éditeurs. Enfin, à partir du moment où tu as payé 100 millions ou plus pour l'exclusivité... Tu es éditeur, ça y est, tu vois, tu t'as signé, t'as signé pour en chier un peu. Et d'ailleurs, je pense que ça y est, ils ont commencé à prendre cette responsabilité-là au sérieux. Ils ont dépublié, 70, 80, 100 épisodes de Joe Rogan, qui d'ailleurs, pour l'essentiel, étaient des épisodes enregistrés avant le deal avec Spotify. Donc, ils sont allés taper dans les archives. Après, c'est compliqué parce que, tout à coup, tu vois, toute l'histoire se juge par l'effet cumulatif de toutes les conneries qu'il a pu dire récemment sur les vaccins, sur le reste. Et du coup, évidemment, tu te mets à réexplorer les anciens épisodes en disant « Non, mais ça, il a dit ça, c'était quand même pas drôle. » Oui, non, mais c'était pas drôle, mais c'était il y a longtemps et... Faut-il légiférer sur le mauvais goût, tu vois ce que je veux dire? Là, on était quand même sur des choses plus graves que ça. Donc voilà, Spotify se retrouve dans une situation pas
très... Tu veux dire, sur le Covid, c'était plus grave que ce qu'il a dit?
C'est ça. C'est-à-dire, de fait, il a fait des blagues sexistes, il a machin, ses invités l'ont fait aussi. Enfin, mais si tu veux, là-dessus, ça justifie parfaitement qu'on dise, tiens, j'ai pas envie d'écouter ce podcast. Ça peut même justifier qu'on dise, tiens, j'ai même plus envie d'être abonné à Spotify. Faut-il vraiment, t'imagines combien de fois il aurait fallu dépublier les grosses têtes, pour avoir un comparatif chez nous. Donc voilà, je lance un appel au calme. Même si Joe Rogan est pas ma cam, mais en revanche, c'est vrai que ça prouve quand même un truc, c'est que tu peux pas devenir éditeur sans en avoir la responsabilité. Mm-hmm. Et ouais. Je pense que c'est ça qui est
la clé de la question.
Exactement.
Oui, parce qu'en fait, Spotify, ils ont signé le deal pas pour être responsable du contenu de Joe Rogan. Ils s'en foutent. Ils ont acheté Joe Rogan parce qu'ils se sont dit, waouh, chouette, 10 millions d'abonnés. Ça va nous amener une audience organique intéressante pour le reste de notre plateforme de podcast. Ça va nous crédibiliser. Ça va en faire venir d'autres, etc. Et d'ailleurs, il y en a qui se sont pas trompés. C'est qui? C'est Rumble, qui est cette plateforme ultra conservatrice américaine, qui vient de proposer 100 millions à Joe Rogan pour les rejoindre.
Mais c'est exactement ça. Joe Rogan, le jour où on décide de l'acheter, on achète le personnage et on est prêt aussi à toutes ces dérives. L'autre question, moi, qui m'interpelle, c'est ben, un podcast, est-ce que c'est, une radio libre ? Est-ce que c'est quelque chose d'éditorialisé ? Est-ce que l'éditeur peut vraiment avoir son mot à dire sur le contenu ? Bon, moi, ça me pose toutes ces questions-là que je me suis par ailleurs posées aussi en tant que podcasteuse. La vraie question, ouais, c'est est-ce qu'on peut tout dire dans un podcast ? Quand tu appartiens à Spotify, j'allais dire Shopify, à Spotify. Bon,
ça ne fait pas.
Quand même, voilà, quand même, bah non, surtout quand tu es aux États-Unis et que tu utilises, comme ils le disent bien, the N-word, bon, tu es quand même. T'es quand même sous le feu des projecteurs et tu t'es attendu au tournant. Donc, est-ce qu'il faut s'offusquer à chaque fois qu'il y a une blague de mauvais goût, comme tu disais, du type les grandes gueules ou alors les grosses têtes, oui. Je sais pas, mais encore une fois, on est aux États-Unis. Et puis, bah, le jour où tu décides de mettre un billet sur Joe Rogan, bah, tu te prépares à tout quand même.
Ça, c'est sûr.
Bien évidemment, si t'es une plateforme dont le produit principal est le streaming d'artistes et de chansons, ben oui, au bout d'un moment, cette guerre et cette bataille, cette question va intervenir. C'est évident. Ouais. C'est évident. C'est que le début. Hein.
Et puis, Joe Rogan est une personnalité qui brouille un peu les pistes parce que les gens pensent que c'est un Alex Jones ou tout ça, alors que pas du tout.
Exactement.
À la base, c'est un comique. Moi, il m'est arrivé d'entendre des trucs de Joe Rogan et de rire. Tu vois, il y a des choses qui sont légitimement drôles. Après, oui, il a ce côté abrasif, etc., etc. Mais tu vois, il a eu, quand tu regardes ses invités, c'est plus consensuel que ce à quoi nous a habitué l'extrême droite américaine. Donc, donc voilà, c'est forcément un peu plus compliqué que ce qui en transparaît dans quelques tweets. Mais malgré tout, oui, quand tu as raison, quand tu achètes Joe Rogan, bah, tu achètes the whole package. Et donc, tout à coup, ça devient... voilà. Pour le reste, je suis d'accord avec la devise de Patrick, qui est aussi la mienne, c'est qu'il faut choisir ses batailles.
Ouais, oui, je crois qu'effectivement, il y a des choses qui sont assez inacceptables dans ce qu'on a vu de Joe Rogan. Je pense qu'au final, étant donné le scandale, il est bon qu'on ait mis un coup de projecteur sur tout ça, en particulier sur... C'est vrai qu'on peut faire la différence entre... Bon, il a eu des maladresses, il a même dit des trucs sexistes et racistes par le passé... qu'il a bien navigué, je trouve, à ce stade, de ce qu'on en a vu. En tout cas, il s'est excusé platement, il a dit « c'est inacceptable, j'ai honte quand je vois ce que j'ai dit à l'époque, je comprenais pas, je savais pas ». Et les trucs racistes qu'il a dit, c'est un truc très particulier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tout l'historique, mais le N-word que tout le monde connaît et que je vais pas dire ici, alors que moi-même, à une certaine époque, je pense que je l'aurais dit juste pour dire le mot, mais pour dire de quoi on parle. Et je savais pas l'importance et le poids que ça a aux États-Unis. Et ça, moi-même, j'ai été éduqué à la chose. Et c'est un truc qu'on ne comprend pas bien en France parce qu'on n'a pas du tout la même dynamique, la même... comment dire ?
Non.
Nous, je pense que beaucoup de gens qui écoutent maintenant se disent « Ah ben c'est bon, Patrick, tu peux le dire. » Mais pas vraiment parce que je comprends pourquoi aux États-Unis, on est arrivé dans une époque où on ne dit même pas le mot quand on parle du mot. Mmh. Et c'est un petit peu ce que dit lui, Joe Rogan, dans son mot d'excuse, qui est le deuxième ou troisième mot d'excuse qu'il a à faire. Mais je crois qu'au final, c'est relativement bien... Ils considèrent bien le scandale, parce que clairement, ils ne vont pas déprogrammer Joe Rogan, ça on est d'accord, et je crois que ça serait beaucoup. Mais lui-même a dit, alors sur le Covid, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je connaisse un petit peu plus les sujets, je vais arrêter d'inviter des gens dont je ne connais. Tu vois, il a la bonne approche, quoi. Il est, et je suis sûr que c'est un personnage peut-être détestable par certains aspects, mais de ce que j'en ai vu, je crois que l'histoire va... se tasser, non pas parce qu'on va l'oublier, mais parce qu'ils ont plus ou moins fait les bonnes choses. Ils ont enlevé des podcasts. Je ne sais pas qui a dû écouter les milliers de podcasts.
Ah, je pense ils s'y sont mis à plusieurs.
C'est ça.
Mais
ils ont enlevé des podcasts.
Hein. C'est amusant. C'est un bon cours de communication de crise. Ouais. Il a été d'ailleurs assez, dans l'ensemble, meilleur que Spotify.
Ouais.
Mais c'est plus facile quand tu es seul maître à bord. Et en s'excusant et en disant voilà, moi, je voulais heurter personne. Je pense qu'il avait la mauvaise optique qui était de dire j'invite quelqu'un qui est pour les vaccins et puis après j'invite un mec qui est contre et donc j'ai fait le job. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce
et
que
c'est
tu
ce qu'il a...
c'est pas
ce qu'il
parce
a
que tu mets un rabbin face à un antisémite que t'as fait le job. Tu vois ce que je veux dire.
Et c'est ce qu'il a reconnu. Alors un petit peu peut-être à demi mot. On verra ce qui se passera ensuite. Dans la chatroom, on nous dit c'est Cyril Hanouna l'analogie FR en France. En fait, non. Alors je connais pas bien. mais
il y a de ça.
Mon impression, c'est que c'est justement pour ça que je parle de la gestion de la crise. J'ai l'impression que Cyril Hanouna, quand on lui reproche quelque chose, il en remet une couche et il dit « Ah, c'est bon, arrêtez de me faire chier, ça va, c'est... Hey, et toi alors, t'as vu ce que t'as dit, machin ?» Là, ce qu'a fait Joe Rogan, c'est « Vous avez raison, excusez-moi, c'est des conversations que je fais genre en live, c'est pas aussi contrôlé, évidemment, en podcast qu'on le revoit après, mais vous avez raison, j'ai honte de ce que j'ai dit à ce moment, tu vois, donc c'est
géré. » Non, mais Patrick, t'as raison, et je crois que c'est une tendance aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, tu es obligé de t'excuser dans l'heure qui suit, après tout ce qui s'est passé, les MeToo, ou, voilà. Ouais. Il n'y a que Mark Zuckerberg qui s'excuse jamais, d'ailleurs, au passage.
Ah,
mais,
mais lui il a appris chez les politiques, c'est le côté « n'avoue jamais ».
Ouais, exactement.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans l'heure qui suit, généralement, quand il y a des gros scandales, les personnes qui sont mises en cause s'excusent tout de suite et essaient de voilà, mea culpa, j'aurais pas dû, je suis désolée, et next. Alors, t'as raison, l'analogie avec Cyril Hanouna va renchérir et va même aller jusque, alors, j'ai pas envie de dire dans les fake news, mais il va venir avec ses propres preuves et ses propres interprétations. Là, Joe Rogan, il s'excuse. Ce qu'il peut faire d'autre de toute manière.
Voilà, mais au-delà de ça, ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, il pourrait. Bon, si, disons qu'il pourrait peut-être faire des émissions différentes. Mais au-delà de ça, je trouve que son excuse, alors peut-être que c'est un très bon acteur, mais ça a l'air sincère. Il dit les bonnes choses comme il le faut. Ça, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Quand t'es dans ce genre de situation.
Ouais, voilà, exactement. Ce qu'il faut faire.
Voilà. La seule issue positive, ou pas positive, mais la seule chose que tu peux faire et qu'on peut attendre de toi, je trouve que c'est ce qu'il a fait et qu'il l'a pas trop mal fait. Bon, après, je suis pas un spécialiste de Joe Rogan, comme je suis pas un spécialiste de Hanouna, mais c'est mon impression. Bon, on va pas faire toute l'émission sur Joe Rogan. Il y a encore quelques petits sujets à évoquer. Et quand je dis petit, je veux dire énorme, parce qu'on a eu la confirmation que Nvidia n'allait pas racheter ARM, finalement. On en parlait déjà la semaine dernière. Mais l'énorme deal à 40 milliards de dollars qui s'était transformé en deal à 70 milliards de dollars, parce qu'une partie du deal était en actions Nvidia, dont la valeur a énormément augmenté suite aux pénuries et à la valeur de tout ce qui a à voir avec les puces. Donc voilà, au final, ça ne se fait pas. ARM va sans doute être vendu, mis sur les marchés par SoftBank. Voilà, je ne retrouvais plus le nom. Et c'est confirmé. Donc, je crois que c'est assez improbablement un deal dont personne n'est mécontent qu'il ne se fasse pas au final, là où tout le monde était content qu'il se faisait il y a un an. Ouais. Hein, Laetitia,
ça me faisait beaucoup.
Tu as l'air d'être d'accord.
Oui, non, alors, j'avais pas vu la news passer, donc je t'écoute là hier, et finalement, moi je me dis c'est bien, ça se fait pas, tant mieux, on va se réjouir.
Il y a moins de consolidation, Nvidia est content de pas avoir à débourser énormément d'argent en actions, SoftBank, finalement ils vont pouvoir le mettre sur les marchés. Bon, tout le monde est content. Enfin, personne n'est mécontent, peut-être. Personne n'est mécontent. Non, moi je dirais plutôt nobody loses. Je crois que c'est.
Ouais. Tu vois, c'est... Personne ne perd la face, déjà, c'est important.
C'est déjà ça.
Mais on savait depuis le début que c'était un peu compliqué, vu le statut d'NVIDIA, vu le statut d'ARM. Et surtout à un moment, tu vois, où par exemple chez nous, on a comment ça s'appelle, de chips plan, enfin de chips, je sais plus quoi, pour arriver à renationaliser, même si c'est pas le bon mot, la production de puces en France, en Europe, etc. Enfin, d'un coup, on s'est aperçu, un peu tard, que c'était quand même assez stratégique. Enfin, surtout que maîtriser ces chaînes d'approvisionnement était un truc stratégique parce que tout à coup, un seul composant te manque et tu arrêtes tes chaînes de production. Ça n'a pas besoin d'être les trucs les plus avancés du monde, hein, ça n'a pas besoin d'être du 2 nanomètres, mais en revanche, c'est quand même pas mal de pouvoir produire ses propres puces. Donc tout à coup, ça faisait quand même beaucoup de concentration,
c'était marrant, ça m'a fait penser aussi. Non, complètement. Ça m'a aussi fait penser à... Enfin, moi, j'habite, comme vous le savez, dans les champs en Finlande, et il y a énormément de champs qui sont soit cultivés, soit en friche, mais énormément subventionnés par l'Union européenne. Et je crois que le regard de toutes ces subventions dans tous les domaines qui soient ont un petit peu changé avec le Covid. Mm-hmm. Parce que tu dis, c'est bon, on a de la bouffe de partout, on a trop de bouffe, on en jette, machin. Et tu te rends compte que... avoir des champs où tu peux faire pousser des pommes de terre, c'est peut-être pas plus mal s'il y a un problème, que les champs soient pas trop loin de chez toi, en fait. Donc, tout à coup, l'argent, entre guillemets, jeté par les fenêtres de l'Union européenne pour laisser des champs en friche, ouais, on va peut-être continuer à le faire, hein, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Plutôt que de mettre
ça questionne la question de l'interdépendance.
Ah bah complètement.
On le voit bien, enfin, tu vois, de relocaliser des chaînes d'approvisionnement et de construction de puces, bah, c'est toujours mieux que d'attendre que notre partenaire chinois, enfin,
voilà, de nous en envoyer,
ça pose toutes ces questions. Exactement. Ou alors, tout simplement, la petite molécule qui existe dans les doliprane qu'on a, bah, d'éviter de la faire fabriquer aussi en Chine. Ouais. Pourquoi ? Enfin, déjà, quel intérêt ? La question de l'interdépendance. Oui, l'interdépendance
et de l'autonomie
aussi sous-jacente à cette news. Ouais, et l'autonomie, sans être pour autant chauvine et nationaliste, mais ça
Ah bah non, mais là, je crois que clairement, on a tous eu une leçon en conditions réelles de l'importance. Stadia, vous savez, ce service de streaming de jeux vidéo lancé il y a 2 ans par Google avec des grandes promesses de « vous allez voir, on va faire les choses bien ». On disait il y a 2 semaines, mais est-ce que Google a déjà gardé un produit plus de 2 ans au-delà de Gmail, YouTube et la recherche ? Écoutez, Stadia, alors c'est pas encore officiel, mais il semblerait que le service de jeux vidéo soit déprioritisé au profit d'un service similaire, en fait, en marque blanche proposée à d'autres développeurs.
Éditeurs, oui.
Et des éditeurs de jeux vidéo. Et c'est marrant parce que, sans vouloir faire je vous l'avais dit, mais pour une fois, encore une fois, je vais le faire, parce qu'il y a 2 ans et demi, avant même le lancement de Stadia, j'avais écrit un article sur Medium où je disais exactement ça. Le but de Google avec Stadia, ce n'est pas de lancer une plateforme de jeux vidéo, enfin peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est d'offrir un truc en marque blanche. Parce que l'infrastructure d'un service de streaming est tellement lourde qu'il y a très peu de sociétés qui peuvent le faire dans le monde. Il y a Google, peut-être Apple et encore Microsoft. Et à la limite, Facebook, peut-être que c'est ça qui devrait faire.
Mais c'est ça, qui vient de leur dîner.
Exactement, j'ai des idées.
Problem solved.
et donc, évidemment, qu'il y a une énorme opportunité dans le fait de proposer un service comme ça aux dizaines, aux centaines d'éditeurs qui n'ont pas les moyens, parce que le jeu vidéo est un marché extrêmement dynamique, et leur proposer de se potentiellement, ou en option, de se découpler des plateformes, des autres plateformes dont ils sont dépendants, du fait d'avoir une PlayStation, d'avoir un machin, et de proposer sur n'importe quel appareil, sur n'importe quel écran, de pouvoir jouer à leur jeu et de proposer leur service, bah, ça peut être intéressant financièrement. Bref, tout ça pour dire que Stadia pourrait, à court, moyen terme, plier bagage. Ils ont déjà plus de studios de développement. Oui, Amazon, bien sûr. On me dit dans la chatroom, Amazon, évidemment. Comment j'ai pu oublier Amazon ? C'est même les premiers qui ont une infrastructure.
C'est
qui
les
pourrait,
premiers, ouais. On va supporter ça. Ouais.
Et donc, bon, Stadia, pas encore au revoir, mais il semblerait que, selon les rumeurs, on n'en soit pas loin. Un tout petit peu de NFT. Justement, pour...
Ah bah,
oui, non, mais vraiment, un tout petit peu. On se plaint que je parle beaucoup d'NFT, mais c'est l'actu et c'est important de comprendre. Vous savez, le but du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu à côté de ça, c'est de comprendre ce qui se passe. Et il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, une analyse de Casey Newton dans Platformer sur les raisons pour lesquelles les NFT suscitent autant de frustration dans le domaine du jeu vidéo et pas autant dans le domaine de la musique. Et je la mettrai dans la newsletter, l'analyse, je vous laisserai aller la lire en entier. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'avec beaucoup de justesse, il dit « Dans le jeu vidéo, les NFT sont pensés comme un moyen de monétiser les joueurs en plus de ce qui existe déjà, alors que dans la musique, c'est proposé comme une option pour les fans d'un chanteur ou une chanteuse ou d'un groupe d'avoir des souvenirs ou des petits trucs à collectionner en plus de la musique qu'ils apprécient déjà. » Et j'ai trouvé cette analyse très juste parce que c'est vrai qu'on a une réaction extrêmement négative contre les NFT dans le jeu vidéo et pas autant dans d'autres domaines, notamment celui de la musique. Donc voilà, je voulais le mentionner, j'avais trouvé ça très pointu.
Patrick, comment est-ce que tu juges, toi, par exemple, la réaction des NFT dans le milieu, alors du coup, e-commerce et un peu fashion, luxe ? Parce que c'est aussi très mitigé, tout le monde.
Ouais,
vas-y, c'est... je t'écoute.
Bah, écoute, c'est très compliqué parce que je trouve que les NFT, comme tout ce qui est crypto et blockchain, n'ont pas encore fait leurs preuves. Je trouve qu'il y a, beaucoup de hype, il y a des technologies intéressantes, mathématiquement c'est intéressant, mais au-delà des questions énergétiques que je mets souvent de côté et dont on m'a fait remarquer d'ailleurs que pour les NFT, on n'est plus tout à fait, c'est pas tout à fait juste de dire qu'il y a des problèmes de consommation énergétique, parce que la plupart des blockchains NFT aujourd'hui sont en proof of stake, ce qui veut dire qu'elles ne consomment pas beaucoup, et Ethereum, le jour où ils seront passés en proof of stake, bah, ça sera un petit peu réglé, mais bon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de NFT sur Ethereum, et ils sont encore en proof of work. Donc, bref, tout ça pour dire que je ne suis pas convaincu, mais je suis beaucoup moins adverse aux NFT dans l'ensemble, dans le monde de la mode, etc., que pour ce qui est des jeux vidéo, pour lesquels je trouve des conséquences assez dramatiques. D'ailleurs, mon édito précédent pour les Patriotes, c'était sur cette question spécifique des NFT dans le jeu vidéo, et j'explique spécifiquement pourquoi ça aurait des conséquences extrêmement néfastes sur l'économie des jeux vidéo. Mais pour la mode, dans un, imaginons un instant que Mark Zuckerberg réussisse à réaliser son rêve. Le métavers est une réalité. Et nous avons des environnements compatibles entre eux avec des rendus photoréalistes où on peut assister à des événements ou des rencontres ou des choses comme ça avec des avatars qui sont hyper réalistes. Et bien, dans ce contexte-là, pourquoi pas acheter un objet qui serait sous forme de NFT, en l'occurrence, qui serait, je ne sais pas, moi, j'ai mon sac Gucci, que j'ai payé, qui n'a été vraiment édité qu'à 1000 exemplaires et qui est authentifié, donc on ne peut pas l'utiliser, ce sac-là, dans ces univers sans avoir le vrai, et que j'ai payé 150 000 euros, et ben pourquoi pas ? J'ai dans mon univers en 3D mon sac Gucci, pourquoi pas ? Si ça consomme
sans,
pas...
Sans même, aller dans le, sans même aller dans le luxe, mais tout ce qui tient de la série limitée, c'est-à-dire, je ne sais pas, Nike fait une série limitée de sneakers et te file le NFT qui va avec, pour, avec le modèle 3D du truc que tu pourras avoir dans ton métaverse. Tout ça tient debout. Voilà. Par contre, quand des gens qui sortent de nulle part te vendent juste une paire de chaussures en 3D, là, j'ai un peu plus de mal. Voilà.
Ouais, pourquoi voilà, pas en
un
même
peu plus
temps
sceptique.
Si c'est un super designer qui fait des modèles en 3D, tu sais, ça existe déjà, hein, des modèles en 3D super classe, ah oui, avec des effets visuels de fou. Et puis, quand tu cliques tes talons trois fois, ça te fait une aura avec des feux d'artifice et des machins.
Et t'en fais quoi ? Tu réinstalles Abo Hotel pour aller les montrer à
non,
tout le monde ?
Non, mais dans le contexte du métaverse, il est effectivement une réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on en reparlera dans 10 ans,
après
on va dire.
Cette phrase. Dans le contexte du métaverse, il est une réalité.
Je crois que
tu tiens ton titre.
C'est Zuckerberg qui susurre à mon oreille en ce moment.
Voilà.
Bon, allez.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. Dernière. Pardon, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question d'achat d'objets virtuels ? D'ailleurs, on dit en NFT, ça pourrait être en autre chose, mais dans d'objets virtuels de mode ou d'autres choses, Laetitia, puisque tu me poses la question, je la retourne.
Bah, écoute, moi, justement, parce que moi, je suis assez fascinée. Alors, dans le e-commerce, il y a cette mouvance maintenant qu'on appelle le méta-commerce. Et moi, j'y vois plein d'opportunités pour les marques. Et on voit bien que les marques... Cédric parlait de Gucci. Non, c'est Cédric ou c'est toi, je ne sais plus. Voilà,
c'est
on
moi,
a des grandes
moi.
Marques de luxe qui s'y sont déjà lancées. On a déjà plein de cabinets conseils qui... Alors, je ne sais pas s'ils sont formés, mais en tout cas, ils sont dessus. Et dans les, sur les boards des plus grandes marques, le méta-commerce, le métaverse est déjà... n'est plus une question, enfin c'est voilà, c'est acquis. Après, effectivement, le métaverse et le métacommerce n'a encore jamais porté ses preuves. Comment est-ce qu'on peut se lancer sur un marché où on n'a aucune donnée, tout est hypothétique? Bon, bah, c'est la magie des années 2020, on va dire.
Je crois que le gros truc que tout le monde oublie dans ce rêve du métavers, c'est que tous ceux qui comprennent de quoi il s'agit quand on parle de la vision de Zuckerberg, qui était intéressante, je le répète, et je contre vents et marées, je le répète, lui-même dit on est un truc qui pourrait peut-être arriver, enfin qui arrivera dans 5 à 10 ans. Donc maintenant commencer à former des trucs et des organes. Enfin, c'est un peu tôt, quoi. On n'y est pas du tout, du tout. Il y a plein de travail qui doit être fait.
Il y a forcément, comme toujours, on se dit qu'en tout cas, il y aura un bonus au premier arrivé. Donc, tu vois, ça a sifflé le début d'une course dont on ne sait pas où on va. Donc, comme disait un ami, pour l'instant, dans le métaverse, il y a surtout des directions marketing, tu vois.
C'est ça, voilà.
Avec des grosses agences qui ont des gros budgets et voilà.
Il faut peut-être que je change de métier. On va essayer de. Il y a une opportunité à saisir là quelque part. Je vais créer.
Tu parles beaucoup des champs autour de toi. Tu pourrais peut-être essayer de vendre une petite parcelle, quelque chose.
Tu sais qu'il y a une société en Écosse. Alors il se trouve qu'en Écosse, quand on est propriétaire terrien, on peut être officiellement appelé Laird, qui est l'équivalent de Lord ou Lady. Lord. Et du coup, il y a une société qui a acheté du terrain et qui t'attribue, pour une somme donnée, un pied carré de terrain, ou trois ou cinq. Du coup, tu es dans leur, base de données propriétaire de cette parcelle minuscule. Donc, tu as officiellement le droit de te faire appeler d'avoir le titre Lord ou Lady sur les documents officiels, tout ça. Donc,
c'est génial. Écoute,
moi, je pense qu'en Finlande, il y a un truc à faire avec les champs autour de moi. Les vendre en NFT dans le métavers. Je vais lancer un cabinet de consulting qui va s'appeler Métaverse NFT Crypto Monnaie. Et c'est là la richesse assurée. Bon, allez, dernier sujet que je voulais évoquer. Les États-Unis ont commencé à utiliser, vous savez, les chiens qui ressemblent à ceux de Boston Dynamics. C'est pas des chiens, mais c'est des sortes de robots qui ressemblent à des chiens un petit peu cauchemardesques. Eh ben, ils les font patrouiller sur la frontière mexicaine aux États-Unis.
Donc, ils vont pas le faire au Canada, bien sûr.
C'est quoi, à part une webcam sur pattes?
Eh ben écoute, peut-être que, je sais pas, il va chercher des os quand tu les lances ou des frisbees.
Non, je pense qu'en plus ça fout la trouille quand même. Hein. Tu passes une barrière, là d'un coup tu fais wow, attends.
C'est ça, c'est vraiment le début. T'imagines, t'essayes de passer la barrière parce que tu es mexicain et tu veux aller bosser aux États-Unis et tu te retrouves face à. Alors c'est pas tout à fait c'est pas Robocop, mais
non.
Terminator. C'est pas le T-1000, c'est le T0,5, on va dire. Mais quand même, c'est un peu bonjour monsieur le robot chien. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi tout. Tu sais, c'est tout de suite.
Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il peut.
Écoute, il n'a pas de bouche. Il n'a pas de bouche, il a des pattes, une webcam, effectivement. Et bon, bah, c'est effectivement à peu près tout. C'est un outil de surveillance, quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi.
Alors, je sais qu'en Chine, là, pendant les JO, il y a des. Alors, ce n'est pas des robots chiens, mais en tout cas, il y a des robots qui préviennent les avalanches et toutes ces choses-là sur les pistes où il y a des parcours olympiques et comment est-ce qu'on dit ça, des épreuves olympiques. Donc, peut-être que dans cet usage-là, peut-être, mais alors là, le chien robot...
J'avoue que j'ai un petit peu... Surtout que ça ne va pas très, très vite, ça va... Bon, je suis sûr qu'il y a une raison.
Il y a 30 ans, je crois, les nuls avaient inventé un super-héros très nul qui s'appelait Super Appel les flics. Et je pense que ton robot, c'est un Super Appel les flics.
Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup Cédric et merci Laetitia pour votre participation à cet épisode du Rendez-vous Tech. Avant de se quitter, évidemment, je vous demande de me dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Laetitia.
Voilà, parce que j'ai pris la parole de manière très démocratique. Mais moi, c'est principalement sur LinkedIn où je suis plus active. Donc, c'est Laetitia Lamarie. Puis, bien sûr, mon podcast, Le Café de l'e-commerce, disponible partout.
Parfait.
Sauf Twitch, bien sûr.
Voilà.
Mais partout, on a des podcasts. Très bien, c'est Le Café de l'e-commerce. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Let London, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, je ne suis pas non plus très active sur Twitter. Vraiment, suivez-moi sur LinkedIn.
Ça marche.
Ce sera plus facile.
Parfait. Cédric, où es-tu, dis-moi, et où est LDDLP?
les doigts dans la prise. Alors, si j'ai un vrai business maintenant et que donc, du coup, je suis forcé de passer du temps sur LinkedIn, c'est quand même Twitter reste mon réseau de cœur. Donc, @Cédric sur Twitter. Et sinon, tu sais, à chaque épisode qu'on fait ensemble, je dis, ah oui, alors les doigts dans la prise, le nouvel épisode va arriver. Et ben, ça y est, je l'ai enregistré hier soir. Il est au montage. C'est pas une course, hein, mais il risque de tomber avant le rendez-vous tech ou juste après d'aller chercher.
Ah, mais attends. De quelle heure précise parle-t-on? Nous sommes mardi 8 février.
T'inquiète, c'est quand je m'y remettrai ce soir. Ah, parce que je crois qu'il y a une coupe quelque part que j'ai oubliée. Donc, pour pas que les gens entendent « Ah merde, attends, je reprends », tu vois, voilà. Je vais être forcé de refaire un petit passage sur une émission qui fait 1h30. Donc voilà, le nouvel épisode arrive. Là, pour une fois, c'est pour de vrai, sauf si mon Mac flambe d'ici là.
Écoute, on ne te le souhaite pas. Fanny, non. Dans la chatroom, s'est éveillée tout à coup. Mais est-ce que c'est un challenge? Normalement, le rendez-vous tech sera publié. Non, on publie généralement à peu près 1 heure après la fin de l'enregistrement parce que nous, on fait un travail beaucoup moins propre et on fait du straight to hard drive. Tu vois, on enregistre et on ne coupe rien. on n'en change rien. Même les bêtises, on les laisse. Donc, on sera en podcast assez vite. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur NotePatrick.com et NotePatrick sur tous les réseaux sociaux. On a pour les Patriotes, pour ceux qui sont sur le flux privé, un petit after show juste après la fin de l'émission où on va parler, par exemple, de... Il y a quelques sujets que je voulais évoquer en plus. Twitch, justement, est-ce que... C'est un sujet qui me paraît intéressant. Est-ce qu'il faudrait réguler le temps de parole des politiques sur Twitch? Ah, voilà. Ah,
j'aurais
sujet.
Adoré débattre de ce sujet, vraiment.
Écoute, si tu as du temps, tu peux rester pour l'after show.
Parce que justement, la parade des politiques, bah ouais, tu peux rester pour l'after show. C'est d'aller sur Twitch. Hein.
Exactement. Bah, on va voir si tu veux rester, avec grand plaisir. Super. on aura ça et puis peut-être quelques autres petits sujets. Et puis, bah, voilà, on est donc pour le rendez-vous tech sur Twitter également pour la veille tech que je fais régulièrement. Et puis sinon, bah, sur toutes les apps de podcast, le rendez-vous jeu sur toutes les apps de podcast aussi et évidemment en live sur Twitch tous les mardis à midi et on est également sur la chaîne YouTube c'est laquelle NotePatrick Podcast si vous voulez voir les replays si vous n'êtes pas sur Twitch au moment où on enregistre et ben vous pouvez la voir en vidéo sur YouTube pour voir ma tête déconfite pendant l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous du coup dans une petite semaine pour l'épisode suivant. Ciao à tous.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.